Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Nicolas Delmas. Il y aura le prince Charles, il y aura les premiers ministres australiens et néo-zélandais. La Turquie commémore demain le 100e anniversaire de la campagne de Gallipoli, plus connue chez nous sous le nom de bataille des Dardanelles. Bataille qui vit s'affronter les troupes franco-britanniques et celles de l'Empire ottoman. Une victoire pour ce dernier, mais aussi le début de la fin. Les autres années, la célébration avait lieu le 25 avril. Pour ce centenaire, la date a été avancée au 24, soit exactement le même jour qu'une autre commémoration, celle du génocide arménien. De nombreux chefs d'État, parmi lesquels François Hollande et Vladimir Poutine, sont attendus ce vendredi à Erevan. Alors évidemment, faire coïncider ces deux anniversaires ne doit rien au hasard. L'initiative en revient au président turc Recep Tayyip Erdogan. Une provocation délibérée qui semble être devenue la marque de celui qui préside aux destinées de la Turquie depuis août dernier, après en avoir été le Premier ministre. Dans le portrait que lui consacre cette semaine l'hebdomadaire Le Point, Erdogan est décrit comme un dirigeant tout-puissant qui sombre dans la paranoïa. La liste de ses ennemis s'allonge de jour en jour. Et sa politique étrangère s'en ressent. La Turquie est fâchée avec l'Iran, l'Égypte, la Syrie, Israël. Les relations sont loin d'être au beau fixe avec l'Arabie Saoudite ou encore l'Union Européenne. Alors s'il y a une ligne directrice, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas claire. L'ambiguïté peut-elle tenir lieu de politique étrangère à la Turquie? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, nous recevons ce soir Dorothée Schmidt. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous y êtes responsable du programme Turquie contemporaine. Vous avez publié aux éditions du CNRS en 2011 « La Turquie au Moyen-Orient, le retour d'une puissance régionale ». C'était une question que vous posiez dans le titre. Pour discuter avec vous ce soir, Emre Demir, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef et fondateur de l'hebdomadaire Zaman France. Zaman, c'est le premier quotidien turc, puisque c'est une extension de ce journal qui est distribué dans plus de 80 pays, qui est présenté en général comme proche de l'actuel gouvernement. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Oui, c'est plus le cas.
Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Il s'agit de Jean Marcoux. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul.
Vous avez... Non. J'étais directeur de l'Observatoire de la vie politique turque, mais pas directeur de l'Institut français d'études anatoliennes.
Alors, pardonnez-moi pour cette erreur. Vous aviez bien publié en 2013 chez l'Harmattan 20 ans de changement en Turquie. J'espère que là, je ne me suis pas trompé.
Oui, tout à fait.
Et vous avez participé avec Dorothée Schmidt au dernier numéro de la revue Des Deux Mondes et à son dossier « La Turquie face à ses tabous ».
Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de...
Emre Demir, vous pouvez peut-être nous dire ce qu'on entend, si jamais vous avez reconnu
oui,
la voix de celui qui parle.
C'est un poème du célèbre poète turc Arif Niyatasya, donc qui est écrit au nom de martyrs de bataille de Dardanelles. Donc c'est un poème nationaliste qui a des figures assez islamiques.
Voilà. Et celui qui lit ce poème, c'est le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Donc c'est un spot qu'on peut voir sur la télévision turque, sur les chaînes de télé turques, voilà, qui célèbre et qui prépare justement cette commémoration de demain. C'est une commémoration importante pour la Turquie que cette campagne de Gallipoli.
Bien sûr, en fait, c'est le seule victoire militaire des Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ils représentent beaucoup de choses pour le Turc, pour le Turc ordinaire. Et puis, étonnamment, on a changé les dates. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui, les Turcs ont célébré, ont commémoré la bataille de Dardanelles, la victoire de Dardanelles, habituellement en 18 mars. Et puis cette année, d'un coup, on a changé les dates juste pour éclipser en fait la commémoration qui va être organisée à Erevan. Et je peux dire aujourd'hui qu'il y a très peu de leaders mondiaux qui vont participer à l'événement. Il n'y a que 20 pays qui ont confirmé leur présence. Donc c'est plutôt un échec, un revers diplomatique dans la situation actuelle.
Oui, là, puisque comme je le disais, cette date coïncide avec le centième anniversaire du début du génocide arménien. Dorothée Schmid, évidemment, ça n'est pas un hasard. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer à l'extérieur qu'on a une forme d'indépendance, ou bien le message s'adresse d'abord à l'intérieur, c'est-à-dire essayer de masquer ce qui se passe dans l'Arménie voisine en donnant peut-être une importance, en surmédiatisant un événement historique?
Ça, c'est quand même un message qui est beaucoup à destination de l'extérieur, parce que c'est un message qui est destiné à créer une espèce de contre-communauté internationale face à celle qui se rassemble autour de la question du génocide arménien. Donc là, on a une chose qui est assez intéressante si on se place dans une certaine continuité sur un an. L'année dernière, le président, qui à l'époque n'était pas président encore turc, le premier ministre Tayyip Erdogan, avait présenté une forme de condoléance, de pardon à la diaspora arménienne dans un communiqué. On s'attend cette année à ce que ça progresse finalement, cette espèce d'ouverture de la façon dont historiquement les Turcs envisagent la question du génocide arménien se continue. Et en réalité, on est tombé dans une crispation diplomatique complète, et s'il y a eu ce choix du gouvernement turc et du président en l'occurrence de jouer le génocide arménien comme une espèce d'atout pour positionner la Turquie comme une puissance à part sur la scène internationale qui elle-même fait partie de l'histoire européenne, mais a une contre-histoire européenne finalement à proposer. C'est ça qui est important sur Gallipoli, c'est une bataille de la Première Guerre mondiale qui donc a impliqué des pays de l'Union européenne, dont la France, qui donc va participer à ces commémorations, puisque le ministre de la Défense va s'y rendre. Et de montrer que l'histoire n'a pas, il n'y a pas une seule interprétation de l'histoire, et que l'interprétation turque est valable et qu'elle peut être partagée par d'autres pays. En l'occurrence, c'est plutôt un raté, puisque comme l'a dit Emre, en réalité, l'équilibre s'est pas fait dans le bon sens pour les Turcs.
Jean-Marc, où est-ce que vous partagez cette analyse, c'est-à-dire une opération de communication avant tout dirigée vers l'extérieur? Est-ce qu'il y a quand même pas aussi une dimension plus intérieure, puisqu'on est à moins de 2 mois des élections législatives qui auront lieu le 7 juin, et on sait évidemment tous les atouts que peuvent représenter ce genre de grand raout autour d'une commémoration historique?
Oui, je pense que tout à fait. Il y a aussi une dimension intérieure qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il y aura des élections législatives le 7 juin et que Recep Tayyip Erdogan, depuis longtemps, est mobilisé sur cet objectif. Bien qu'il soit président de la République et plus Premier ministre, son objectif, c'est de gagner finalement 367 députés qui lui permettront de changer la Constitution seul avec son parti et de créer un régime présidentiel qui centralisera encore le pouvoir. Et donc, je crois que le clip auquel vous faites allusion, c'est un clip finalement aussi une sorte de clip électoral d'une certaine manière, parce que ça vise à mobiliser des relents nationalistes dans l'électorat turc, finalement à faire sentir au moment où on célèbre le génocide arménien que tout le monde nous en veut, donc de mobiliser un petit peu des ressorts qui sont ceux justement que mobilisent beaucoup de leaders politiques au moment justement d'élections et de rendez-vous électoraux.
On voit d'ailleurs dans ce clip le président Erdogan se recueillir sur la tombe d'un soldat de la Première Guerre mondiale, et puis juste après on voit l'image de Mustafa Kemal. Est-ce que Erdogan se vit aujourd'hui, ou en tout cas essaie de faire passer l'image d'un successeur de Mustafa Kemal, Emre Demir?
Je dirais même plus, bien sûr, il y a cette complexité d'être deuxième Atatürk, parfois on le dit, mais le but politique d'Erdogan, à mon avis, c'est c'est de donner l'image qu'il va renaître l'Empire ottoman, le sultanat, etc. Donc, et on essaie de créer en Turquie une histoire parallèle, une histoire alternative, en disant que la République, le fondateur, ils ont tout détruit, alors que pendant l'Empire ottoman, tout était très bien, la Turquie était forte, reconnue par le leader mondial. Et puis aujourd'hui, Erdogan essaye de réinstaurer en fait cette aura, ce pouvoir politique que représentait l'Empire ottoman. Et je dirais même, je pense que ces commémorations de bataille de Dardanelles étaient plus destinées à la politique intérieure que la politique extérieure, parce que c'était pas une décision très très sage pour la diplomatie turque. La Turquie était mobilisée en fait pour amortir la vague de reconnaissance des génocides partout dans le monde, et l'idée c'était d'apaiser le jeu. En fait, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, par exemple, Erdogan a présenté ses condoléances aux petits-enfants des Arméniens. Donc, au début, on voulait apaiser le jeu, avoir moins de réactions, moins de reconnaissance des jeunes arméniens. D'un coup, juste avant les élections, on passe à un discours assez politique, assez violente, assez forte, face au pape, pape François, et face à l'Autriche, face au Parlement européen. On a vu un langage assez nationaliste qu'on n'a pas vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, par rapport à la politique extérieure, c'était pas une décision très sage de la part de la Turquie, et ça, c'est un revers diplomatique total, mais par rapport à la politique intérieure, ça marche. Donc, Erdogan a besoin de voix nationalistes, parce que le parti nationaliste en Turquie est en train de gagner des voix. Et puis, le pouvoir est risqué de... Voilà, c'est risqué. Donc, il y a une possibilité de coalition en Turquie. C'est pour ça que je pense que toutes ces manœuvres étaient destinées à la politique intérieure.
Alors, j'évoquais le portrait assez long qui lui est consacré dans le magazine Le Point de cette semaine, où on voit une image, alors qu'on commence à avoir beaucoup, où le président Erdogan est dans son nouveau palais qui est construit près d'Ankara, et puis il est au milieu de gardes qui sont tous en costume, qui représentent différentes époques de l'Empire ottoman. Est-ce qu'on peut dire, Dorothy Schmidt, qu'il y a une forme de nostalgie peut-être instrumentalisée de ce qu'a été l'Empire ottoman, et que c'est une façon, peut-être déjà une première clé, pour comprendre ce qu'est aujourd'hui la politique étrangère de la Turquie?
Alors, quand vous évoquez cette image, là, ça va en deçà de l'Empire ottoman, puisque c'est les États turciques depuis l'existence d'une Turcité mythique. Donc, on est au-delà de l'Empire ottoman. Il y a une espèce de continuité nationale. Il est clair que le nationalisme est une ressource importante, très importante électorale. Et de ce qui a été dit précédemment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, la politique étrangère, c'est un motif qui est très utilisé dans les campagnes électorales en Turquie. Alors ça, on n'est pas très habitué, parce qu'en France, on ne fait pas forcément campagne sur la politique étrangère. Il est clair qu'Erdogan a toujours beaucoup utilisé la politique étrangère pour faire campagne. Je persiste néanmoins à croire qu'il y avait quand même un aspect diplomatique très important, et qu'il y a eu une erreur d'appréciation, puisqu'effectivement, ça a quand même totalement raté. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'en réalité, on a eu une espèce de séquence de contre-feu qui ont été allumés par la diplomatie turque après les attentats en France, à un moment où la Turquie a été mise sur le grill très fortement pour son rôle dans la crise syrienne, pour sa difficulté à contrôler le passage des djihadistes en Syrie. Et là, on a eu une série de contre-feux sur tous les sujets, puisqu'on a utilisé le mot de paranoïa habituel des Turcs. C'est-à-dire qu'on a eu des incidents en mer Égée, on a eu des signaux de guerriers sur la question de Chypre, avec ce problème de l'exploration du gaz. On a eu évidemment des déclarations sur le PKK terroriste, les Kurdes, etc. Et puis on a eu cette invitation qui a été envoyée au président Sarkissian d'Arménie pour lui faire brutalement fêter le génocide arménien à la bataille de Gallipoli. Ce à quoi Sarkissian a répondu: écoutez, moi-même je vous avais invité aux commémorations, et il se trouve que chez moi on ne répond pas à une invitation tant qu'on n'a pas eu tant qu'on n'a pas donné sa réponse. Donc je crois que les deux dimensions, elles sont quand même très fortement... elles vont ensemble, mais ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, Erdogan a perdu le sens de ce qu'est l'image de la Turquie et de la façon dont elle est perçue à l'extérieur.
Ce que je voulais vous demander, Dorothée Schmidt, c'est, d'après vous, en quelques mots, est-ce que ces contre-feux qui sont allumés, ce sont des contre-feux qui sont mûrement réfléchis ou maîtrisés, ou bien ça traduit plutôt une forme de fuite en avant de la part du gouvernement turc?
Là, sur les contre-feux que je citais, qui sont en gros la Grèce, Chypre, les Arméniens et les Kurdes, c'est du réflexe, c'est d'ordre du réflexe. C'est tout ce qui va avec ce qu'on appelle le syndrome de Sèvres, qui est cette espèce de syndrome de d'insécurité fatale des Turcs qui date du démantèlement de l'Empire ottoman. Donc on a eu, ça a tiré un petit peu dans tous les coins, c'est une mesure de représailles immédiate qui est quasiment de l'ordre du réflexe. Ensuite, évidemment, on peut pas imaginer que la réflexion ait été très très loin sur cette question du génocide, parce que si on apprécie concrètement la façon dont cette question a fait son chemin dans le débat international, il est évident que les Turcs allaient avoir un problème avec ça.
Jean-Marc Roux ?
Oui, je pense qu'il y a eu aussi une sorte de choc entre l'agenda de la politique extérieure qui était pour la Turquie de se préparer à contrer ou à assouplir le choc des cérémonies du centième anniversaire du génocide arménien, mais il y a eu un choc entre cet agenda-là de politique extérieure et puis l'agenda intérieur qui fait que effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que Recep Tayyip Erdogan n'a pas pu poursuivre. Il est probable que s'il n'y avait pas eu cet agenda électoral aussi pressant, il y aurait peut-être eu à ce moment-là des propos qui tendaient, effectivement, présenter des condoléances. On les a vus d'ailleurs apparaître ces derniers jours pour essayer d'encaisser le choc. Davutoğlu a dit il va y avoir comme partout dans le monde une cérémonie pour rappeler ce qui s'est passé en 1915 au patriarcat arménien, nous ne bloquons pas du tout le débat. Donc il y aurait eu malgré tout des petits pas qui se dessinaient pour essayer d'encaisser le choc. Mais je crois qu'il y avait aussi une forte contradiction entre l'agenda de la politique étrangère et l'agenda de la politique intérieure.
Est-ce que ça veut dire que d'après vous, Jean-Marc Roux, une fois que les législatives auront eu lieu, on peut peut-être s'attendre à une clarification de la politique étrangère de la Turquie, parce qu'il n'y aura plus cet enjeu électoral?
Je crois que de toute manière, actuellement, la Turquie est dans une position qui est très difficile du fait de la situation générale au Moyen-Orient. Et la Turquie est un pays qui est particulièrement sensible justement à ces évolutions parce qu'elle est au cœur à la fois des Balkans, de l'Asie centrale et du Caucase, du Moyen-Orient, qu'elle a actuellement une frontière qui est avec deux États, des frontières avec deux États, la Syrie et l'Irak qui n'existent plus. Donc je pense que la gestion de toute manière de la politique étrangère turque dans les prochains mois va être très très difficile parce que c'est un petit peu la faillite de toute cette politique du zéro problème avec nos voisins qui s'est transformée en une politique du zéro voisin finalement avec nos problèmes.
Voilà, le zéro problème avec nos voisins, c'est un peu ce qui pouvait résumer la doctrine de politique étrangère de la Turquie jusqu'à ces derniers mois, Emre Demir.
En fait, il est clair que c'est très difficile à expliquer la politique étrangère turque. Donc c'est parfois illisible et c'est parfois irrationnel pour nous. C'est parce que tout simplement, il est géré par un seul homme, par Erdogan. Donc ça dépend de ses calculs politiques, ça dépend de ses psychologies.
Vraiment lui qui décide de la politique étrangère. C'est pas le résultat de tensions, par exemple.
Il y avait un duo de Ahmet Davutoğlu et Erdogan. Et Erdogan impose aujourd'hui son opposition et son pouvoir. C'est beaucoup plus important qu'Ahmet Davutoğlu. Et je peux dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, comprendre la politique étrangère turque, il faut comprendre la psychologie de Recep Tayyip Erdogan ainsi, parce que pour eux, ils pensent sincèrement que la Turquie est une puissance mondiale. Ils pensent sincèrement que le temps de grande puissance occidentale est passé et c'est fini. Et aujourd'hui, la Turquie émerge en tant que nouvelle puissance mondiale.
Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre Erdogan et Poutine, dont on dit qu'il se rêve en nouveau tsar? Erdogan se rêverait en quoi? En nouveau sultan?
Oui, exactement. Sauf que Erdogan n'a pas Gazprom. Donc c'est ça, c'est la différence principale. Donc son poids est nettement moins important que Poutine, nettement moins important que la Russie. Pourtant, ils pensent vraiment que la Turquie a un rôle à jouer dans la région, que la Turquie a un rôle à jouer dans le monde. Et donc, ça explique beaucoup d'échecs politiques, surtout en Moyen-Orient et dans d'autres régions.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
À la
L'ambiguïté peut-elle tenir lieu de politique étrangère pour la Turquie? C'est la discussion que nous menons ce soir en compagnie d'Emre Demir, de Jean Marcoux et de Dorothée Schmid. Alors, je ne sais pas si le terme d'ailleurs d'ambiguïté est un terme qui vous paraît pertinent, Dorothée Schmid, mais enfin, il y a au moins un terrain sur lequel il semble assez approprié, c'est celui de la Syrie. On ne sait plus très bien, on ne sait pas très bien quel jeu joue aujourd'hui la Turquie en Syrie. Elle a pour objectif depuis le début, il faut le dire, depuis 2011, la chute du régime de Bachar al-Assad. C'est beaucoup plus ambigu à l'égard de l'État islamique.
Alors je pense que peut-être que plutôt que de parler uniquement d'ambiguïté, il faut considérer que la Turquie fait plusieurs choses à la fois, qu'elle fait tellement de choses à la fois qu'on a du mal à mettre de l'ordre en fait dans ses priorités de l'agenda extérieur turc. Et j'ai souvent l'impression que quand on parle d'ambiguïté, cette impression d'ambiguïté, elle vient du fait qu'on plaque sur la Turquie nos propres priorités. C'est-à-dire qu'en réalité, si on écoute un officiel turc, il va vous dire non mais c'est très clair, on fait ça, ça, ça et ça. Bon. C'est pas toujours si clair que ça malgré tout quand on écoute la liste. Mais néanmoins, il y a une forme de cohérence qui peut-être nous échappe parce qu'on considère que la Turquie devrait partager entièrement toutes nos priorités. Il se trouve que, étant donné sa situation géographique d'abord au Moyen-Orient, comme l'a rappelé Jean-Marcoux, la Turquie est beaucoup plus exposée à des dangers qui sont extrêmement forts aujourd'hui et que la crise syrienne est un foyer d'implosion de toute la région qui risque de toucher la Turquie d'extrêmement près. Aujourd'hui, la Turquie subit déjà les conséquences de cette crise avec la présence de 1,6 million de réfugiés sur son propre sol. On sait qu'elle est mise en cause en permanence sur le passage des djihadistes qui passent de l'autre côté de la frontière. Et effectivement, la Turquie dit toujours que le point de son agenda numéro un, c'est que Bachar parte. Or, aujourd'hui, on voit très bien que Bachar al-Assad est en passe d'être réintégré dans le jeu, quasiment réhabilité politiquement par un certain nombre d'acteurs autres que la Turquie.
Jean Marcoux, dans le dossier de la Revue des Deux Mondes auquel vous avez participé, vous écrivez que les Turcs se retrouvent piégés dans une impasse où les a conduits leur hostilité excessive envers le régime de Damas.
Oui, je dirais qu'ils ont eu à affronter il faut pas oublier on voit bien là la vacuité des changements en politique étrangère parce qu'ils avaient établi des relations excellentes avec le régime de Damas à la veille des révolutions arabes. Et puis, finalement, à partir du moment où le régime syrien a commencé à vaciller, à réprimer massivement les manifestations qui avaient lieu, ils se sont retrouvés dans une première contradiction. Pouvaient-ils continuer à soutenir ce régime? Bon, ils ont fini par le lâcher et à ce moment-là prendre le contre-pied. Il n'était probablement pas obligé de prendre une position aussi radicale vis-à-vis de Damas. Et je crois que ces positions extrêmement radicales, ces positions un petit peu imprudentes, conduisent la Turquie à des impasses. On l'a vu également, cette radicalité des positions turques à l'égard d'Abdel Fattah el-Sissi et du nouveau régime égyptien. Certes, ils pouvaient dénoncer ce qui s'était passé en Égypte et les massacres qui s'étaient passés pendant l'été 2013, mais après, il y a eu véritablement un manque de réalisme vis-à-vis de ce qui se rétablissait en Égypte et une hostilité systématique vis-à-vis du régime égyptien qui a finalement décaler la Turquie par rapport à ses alliés occidentaux qui, eux, ont adopté des positions beaucoup plus réalistes vis-à-vis de l'Égypte. Et là, on voit que la Turquie, se retrouve dans des impasses. Bon, en Égypte, actuellement, ça a été le non-renouvellement de l'accord de libre-échange entre l'Égypte et la Turquie. Actuellement, c'est le risque de non-renouvellement de l'accord roll-on-roll-off, c'est-à-dire de l'accord qui permet aux camions turcs de passer par l'Égypte en contournant le conflit syrien pour aller en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe exportés. Donc on est dans des positions systématiques de Recep Tayyip Erdogan très souvent, qui sont des positions extrêmement radicales et qui finalement sont très dangereuses dans une situation qui est extrêmement difficile et qui change très vite et qui finalement empêche le rétablissement et la gestion d'une politique étrangère à long terme.
Et Emre Demir, on pourrait dire que depuis le début des révolutions arabes, la politique étrangère de la Turquie, elle se caractérise par une série d'erreurs de jugement et d'analyse.
D'appréciation, bien sûr. Et puis, la politique étrangère turque, je veux dire, fait l'effet d'une girouette et est constamment soumise au changement. En fait, il y a une logique derrière pour Erdogan, pour la diplomatie.
Sauf sur la Syrie depuis 2011. Oui. On peut dire qu'au moins, là, il y a une forme de continuité.
Oui, bien sûr.
Enfin, par rapport, en tout cas, à Bachar al-Assad.
Oui. comme d'autres pays occidentaux, la Turquie a pensé que Assad va partir dans quelques mois. Donc c'était une erreur d'appréciation magistrale qui a coûté très cher en Turquie. Donc ils ont perdu depuis toutes leurs cartes. Et puis, par exemple, il y a quand même... ça a joué aussi. Il y a constamment un changement de priorité dans la politique étrangère turque. D'abord, on a soutenu l'insurrection armée pour renverser en fait le président Bachar al-Assad. Et puis Erdogan, il a pris parti pour le président égyptien destitué, Mohamed Morsi. Et puis il a adopté une position pro-frère musulman, pro-Ikhwan, partout dans le monde arabe. Il s'est attiré les foudres de l'Arabie saoudite, de la Russie. Et puis après, il a créé un certain rapprochement avec l'Iran, en même temps ces deux pays, ils sont battus en Syrie, ils ont mené une guerre de procuration.
Et puis, il paraît même que Erdogan, lors de sa visite en 2014 en Iran, parlait de l'Iran comme de sa seconde patrie. Oui, et puis depuis, ça s'est beaucoup plus tendu. Hein.
Bien sûr. Et puis, Erdogan a proposé de participer à l'organisation de coopération de Shanghai. Il a proposé ça à Poutine. Et il a menacé d'acheter des systèmes de défense aériens chinois, donc qui attiraient les foudres de pays occidentaux. Donc il y a toute une série de manœuvres diplomatiques qui a créé que des ennemis. Et en même temps, tous ces pays-là, ils sont interdépendants. Et il y a une relation ambiguë avec l'Iran, bien sûr, avec l'Irak, avec la Syrie. Par exemple, en Syrie, juste un exemple pour montrer en fait l'incohérence de la politique étrangère turque. Et c'est qu'on combat contre le PKK, on maudit actuellement Daesh, et on est notre pire ennemi en Syrie, c'est Bachar al-Assad. Donc,
le PKK, il faut rappeler, sont les combattants kurdes. Oui. Dorothée Schmidt, c'est quoi? C'est un problème de compétence, enfin, ou plutôt d'incompétence, finalement?
Non, alors encore une fois, dans la liste que vient de faire Emre Demir des choix turcs, on a plutôt l'impression d'une espèce de série de choix opportunistes, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération extrêmement forte des choix de politique étrangère turque depuis les printemps arabes, parce que les Turcs pensaient que c'était le moment ou jamais de jouer la carte de la puissance. Ils pensaient avoir une puissance suffisamment assise, notamment économiquement, puisqu'il faut rappeler que l'économie turque va plutôt mieux que des tas d'autres économies. Ils pensaient avoir une capacité d'influence dans le monde arabe parce qu'ils pensaient qu'ils étaient bien accueillis. Et en réalité, là, ils ont commis une très grosse erreur d'appréciation. C'était le retour des puissances arabes elles-mêmes. Ils se retrouvent à s'affronter par procuration à différents moments à l'Arabie saoudite, parce que là, on a parlé de la Syrie, à d'autres puissances très importantes comme l'Iran, par exemple. Et finalement, la Turquie se retrouve toute petite dans cette espèce de compétition des puissances à l'échelle régionale du Moyen-Orient.
Oui, parce que dans ce que vous dites, on a l'impression que finalement, la politique étrangère turque, elle consiste avant tout à se caler sur l'agenda des autres pays, mais que c'est assez peu elle qui détermine la position de ses voisins. Alors, sur l'Arabie saoudite, elle va dire qu'elle soutient, alors même si c'est un soutien indirect, l'opération que mène Riyad au Yémen. La Turquie, finalement, s'est vue plus grosse qu'elle n'était ?
Oui, probablement. Puis alors, sur l'Arabie saoudite, à partir du moment où on a compris que finalement, c'était pas la Turquie qui faisait le jeu, il a fallu se rabibocher avec les Saoudiens, avec lesquels on s'entendait pas bien à cause de la question des frères musulmans. Et donc maintenant, on a déclaré, au moment de la mort du roi Abdallah, il y a eu quand même un deuil national en Turquie, ce qui semble un truc un peu étrange. Et puis on a maintenant ce soutien sur le Yémen qui les met en position beaucoup plus compliqué avec les Iraniens. Et donc, on peut imaginer qu'assez vite, il va y avoir aussi une espèce d'initiative pour apaiser les Iraniens, parce que les Turcs sont quand même assez conscients que les Iraniens, aujourd'hui, sont la puissance majeure, en réalité, à l'échelle régionale. Ils sont peut-être beaucoup plus importants pour les Turcs que ne devraient l'être les Saoudiens, en réalité. Mais simplement, comme ils s'étaient alignés, les Saoudiens, sur l'Égypte et sur les frères musulmans, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on a des espèces de priorités qui tournent, parce que finalement, on est quand même dans une région où les contradictions sont énormes et où mener le jeu et se dire, comme se le disent les Turcs depuis quelques années, qu'ils sont une puissance sunnite et qu'ils ont vocation à exercer un leadership sunnite est une illusion, à mon avis, complète au Moyen-Orient, ne serait-ce que parce que la Turquie n'est pas un acteur arabe. Elle n'a pas de légitimité là-dessus.
Jean-Marco, du coup, on peut se dire que la Turquie est peut-être condamnée à choisir un coup l'Arabie Saoudite, un coup l'Iran, un coup l'Arabie Saoudite, un coup l'Iran, ou bien ça peut être un rôle un peu plus, disons, prestigieux, qui serait un rôle de médiateur ou d'arbitre dans la région.
L'affaire du Yémen, je crois, a été extrêmement édifiante parce que la Turquie s'est rangée du côté de l'Arabie Saoudite en faisant des déclarations extrêmement dures vis-à-vis de l'Iran. Mais alors même qu'elle avait fait ces déclarations, lorsque les pays arabes se sont réunis pour constituer la coalition justement pour intervenir au Yémen, une coalition d'ailleurs arabe sur le plan militaire qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de la Ligue arabe, et bien la Ligue arabe, le secrétaire général, a dit que finalement on n'avait pas du tout besoin de la Turquie et que par-dessus le marché, la Turquie se mêlait finalement de ce qui ne la regardait pas, interférait à la cité, il a cité même les interférences de la Turquie à hauteur des interférences de l'Iran. Et ensuite la Turquie s'est rendue en Iran, non sans avoir d'ailleurs reçu ce qui n'était pas prévu dans l'agenda d'Erdogan, le ministre de l'Intérieur saoudien. Donc il semble qu'il y ait un jeu extrêmement compliqué qui est mené, mais qui est un jeu qui est quand même très opportuniste et assez peu pensé, et qui donne justement cette impression de flottement dans la position turque au Moyen-Orient.
Vous évoquiez tout à l'heure cette fameuse phrase qui est censée résumer la doctrine de politique étrangère de ces dernières années, zéro problème avec nos voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, Emre Demir, il y a des voisins de la Turquie avec qui ça se passe très bien et sur lesquels le gouvernement d'Ankara peut compter ?
Partiellement avec le Kurdistan irakien, la Turquie entretient toujours des bonnes relations. Mais donc, sachant la situation dans la région, donc, on ne peut pas dire que la Turquie a un allié. Et en région, avant, c'était le Qatar. Donc le Qatar était l'ami le plus important de la Turquie en région. Et puis depuis l'année dernière, donc, il y a un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la Turquie a soutenu le frère musulman, surtout Morsi. Erdogan a critiqué systématiquement Sisi, mais aujourd'hui, donc, c'est plus calme. Par exemple, après la condamnation de Morsi à 20 ans de prison, Erdogan n'a rien dit. Et depuis, ça fait maintenant 2 jours, Erdogan n'a pas pris de parole. Et donc, je pense qu'il y a certainement un changement de position. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est la Turquie défend en fait cette diplomatie, ce qu'elle appelle la solitude précieuse, où on appelle ça une diplomatie des valeurs, une diplomatie idéologique, je veux dire. Comme on expliquait, c'est pas vrai non plus. Donc, il y a un certain opportunisme, il y a certaines incompétences dans ces décisions-là.
Là, pardonnez-moi, la solitude précieuse, je ne connaissais pas ce mm-hmm. terme-là, ça veut dire que la Turquie se satisfait d'un isolement ouais. et en tire peut-être même un certain profit à l'intérieur.
Oui, aujourd'hui, enfin, c'est le porte-parole du président Erdogan qui a prononcé ce mot pour décrire la situation de la politique étrangère turque en disant qu'aujourd'hui, peut-être on est isolé dans la région, mais on a défendu les idées démocratiques, on était contre un coup d'État en Égypte, on était contre aux atrocités de Bachar al-Assad. Donc c'était une position, c'était une diplomatie plutôt idéologique pour eux, même si ce n'était pas vrai. Et juste pour rappeler, en fait, par exemple, pourquoi la Turquie ne condamne pas les régimes chinois, les Russes, alors que les minorités turcophones dans ces pays-là, ils ont toujours sous une systématique violence, alors que la Turquie n'a jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui face à Poutine, face à la Chine.
C'est une position qui est peut-être pas si éloignée que ça, finalement, que de celle de la diplomatie française actuelle, telle qu'incarnée par Laurent Fabius, Dorothée Schmidt, c'est-à-dire une façon de dire, voilà, on fait de la politique étrangère avant tout au nom des principes, et peut-être moins au nom du pragmatisme.
Vous savez que sur la crise syrienne, la France et la Turquie sont parfaitement alignées. C'est le cœur de la coopération franco-turque. Donc si on devait citer aujourd'hui les amis de la Turquie, la France est un des premiers amis de la Turquie. C'est clair que depuis l'élection de François Hollande, il y a un désir d'apaiser la relation et au-delà de ça, d'une espèce de compagnonnage finalement avec les Turcs dans la région.
Compagnonnage critique quand même avec la question des djihadistes qui transitent par la Turquie pour les combattre en Syrie. On a entendu quand même des critiques assez fortes formulées contre...
Écoutez, si on observe ce qui se passe dans le dialogue turco-allemand, qui à mon sens est très significatif, puisqu'on a une forte présence d'une immigration turque en Allemagne, on a une Allemagne qui jusqu'à présent, enfin jusqu'aux événements de Gezi à l'été 2013, était assez plutôt mesurée dans ses propos. Aujourd'hui, dans le rapport Europe-Turquie, c'est quand même la France qui est la plus cool, je dirais, avec les Turcs.
Ça, c'est assez surprenant. Jean-Marc Roux considère que c'est la France devant l'Allemagne, finalement, qui a une relation privilégiée avec la Turquie. Puisqu'on parle de l'Europe, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la politique étrangère turque a totalement abandonné l'idée d'une adhésion future à l'Europe, ou bien est-ce que ça reste quand même inscrit dans l'agenda, même si on sait que les négociations sont à peu près gelées?
Ah bah officiellement, ça reste inscrit dans l'agenda. Hein. Quand on regarde à la fois les déclarations de Recep Tayyip Erdogan après son élection et de Ahmet Davutoğlu après sa nomination comme Premier ministre et son investiture au Parlement, il y avait deux questions prioritaires qui ont été répétées par les deux acteurs. C'est l'adhésion à l'Union européenne et deux, le règlement de la question kurde. Ça reste effectivement formellement des priorités qui sont affichées. Après, je crois qu'il y a un certain réalisme qui fait que, ben, on le voit sur les deux questions. Le gouvernement met la pédale douce, c'est-à-dire que les négociations sont de toute manière gelées. Il y a pratiquement pas eu de chapitre ouvert depuis 3 ans, un chapitre qui était ouvert mais difficilement dans les négociations turco-européennes. Et quant à la question kurde, elle a été mise en, là aussi, je dirais qu'elle a contrarié l'agenda intérieur, parce qu'au moment où on relançait d'une certaine manière le règlement de la question kurde, il y avait les élections et le gouvernement a oublié de mentionner dans son programme les développements du règlement de la question kurde, alors même qu'on avait claironné il y a quelques semaines une relance du règlement de la question kurde. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est un petit peu des exercices obligés, même si on avance concrètement pas beaucoup sur les deux dossiers.
Puisque le terme qu'on avait retenu ce soir dans le titre de l'émission, c'était celui d'ambiguïté, s'agissant des relations entre la Turquie et l'Union européenne, Jean-Marc Roux, qui est le plus ambigu finalement des deux? Est-ce que c'est pas l'Europe? Est-ce que c'est pas l'Union européenne?
L'Union européenne est très ambiguë depuis le début également. Hein. Je crois que le problème aussi de cette candidature n'est pas seulement turc, mais c'est que elle pose à l'Europe une question existentielle qui est de savoir comment elle se définit, pas seulement en termes territorial, mais en termes politiques, en termes culturels, et que ce problème-là, l'Europe ne l'a jamais véritablement résolu et a énormément de mal à l'aborder. Donc l'Europe, je dirais de ce point de vue-là, vis-à-vis de la candidature de la Turquie, est tout aussi ambiguë que peut l'être la politique étrangère turque.
Alors, on a évoqué les tensions diverses et à géométrie variable dans le temps avec une partie du voisinage de la Turquie. Vous nous disiez tout à l'heure, Emre Demir, que c'était difficile évidemment pour un tel pays, parce que se retrouvant à la confluence d'un certain nombre de conflits. Mais est-ce que cette faiblesse n'est pas aussi sa force? C'est-à-dire que, de toute manière, rien ne peut se régler dans la région sans la Turquie.
Bien sûr. Et puis il faut ajouter aussi que même si aujourd'hui c'est presque impossible d'un rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne, car Erdogan s'inspire d'un modèle à la poutinien, à la chevésien, je veux dire, un pays, un système présidentiel qui ressemble beaucoup par exemple à la Venezuela de Chavez. Et puis la démocratie est en, je peux dire ça même, que la démocratie turque est en danger, le système électoral, le système parlementaire est en danger en Turquie. Et avec le régime actuel, le régime d'Erdogan, je pense que c'est pas possible d'être membre de l'Union européenne. Mais le futur, quand même, ça reste l'Europe pour la Turquie, parce que c'est la seule voie de sortie pour la Turquie, de retour à une politique étrangère séculière, et sans parti pris, et plus neutre dans le Moyen-Orient et plus proche à la ligne européenne. Ce sera un multiplicateur de force pour deux côtés, en fait, pour la Turquie et pour l'Union européenne.
Toute dernière question de Dorothée Schmidt. Est-ce que finalement Erdogan aujourd'hui ne peut pas tout se permettre, et ce n'est pas ce qu'il fait d'ailleurs, parce qu'il sait que même s'il fait des erreurs politiques, de toute manière, la solution à l'instabilité régionale, elle passera forcément par la Turquie?
Il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment inverse, que l'instabilité régionale est propagée par la Turquie. C'est quand même là qu'on a une grande difficulté autour de la crise syrienne. Nous avons certes besoin de la Turquie, mais nous ne savons pas ce que fait la Turquie. Et là, sur ce point-là, le gouvernement turc est quand même très régulièrement mis en cause. Évidemment, l'acteur qui a la main là-dessus, c'est plutôt les États-Unis que l'Europe. Et on sent très bien qu'il y a une volonté de part et d'autre d'arriver à maintenir un dialogue qui soit un peu constructif, mais malgré tout, la discussion s'est beaucoup durcie entre les États-Unis et la Turquie depuis un an.
Voilà, il faut rappeler que la Turquie fait partie
de l'OTAN.
Merci beaucoup Dorothée Schmid, merci à vous Jean Marcoux et à nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble d'où vous étiez. Emre Demir, merci également.
Merci à
vos références bibliographiques, le site de Zaman France, c'est sur notre site à nous, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. La semaine prochaine, Le Grain sera présenté par Mélanie Chalandon. Il sera question de finances locales à partir de lundi. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.